France Culture la nuit, avec vous jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, un patrimoine radiophonique.
On ne sait pas exactement comment le château de Lacoste devint la propriété de la famille de Sade. Si Donatien Alphonse François Marquis de Sade n'y passa pas sa vie, il aura toujours pour Lacoste, écrivait-il, un attachement extraordinaire. Ce château fut sauvé par un amoureux du patrimoine, André Bauer, professeur des collèges, qui l'acheta pour le restaurer. C'est lui qui nous explique que ce château servit de modèle au château de Siling, héros des 120 journées de Sodome. Aujourd'hui, le château appartient à Pierre Cardin.
Lacoste, Vaucluse. Sur un piton pareil à un nid d'aigle se dresse le château du marquis de Sade. Des ruines blanches découpant un ciel bleu pâli par le mistral. L'insolite, c'est que le marquis de Sade, noble mais républicain, n'ait habité que 4 à 5 ans son domaine, y régnant en seigneur et maître, mais qu'il soit par contre resté prisonnier à Paris pendant près de 40 ans. L'insolite, c'est que les vestiges de ce château, à la réputation à la fois morbide et scandaleuse, se dressent dans un site virgilien, entouré d'autres villages fortifiés aux douceurs provençales, Gordes, Beaugneux, Opède. L'insolite, c'est que ce soit un souriant professeur du lycée d'Apt, M. Bouer, qui presque seul se soit mis dans l'idée de restaurer ces ruines, attirant des millions de curieux. L'insolite, c'est que, à longueur d'année, des dizaines de jeunes, garçons et filles, s'installent à Lacoste pour participer aux travaux, économisant leur argent, sacrifiant leurs loisirs pour que, peu à peu, l'histoire et la légende renaissent de leurs mains à travers leur jeunesse. Madame Martine Pierrot a dirigé les fouilles cet été. Elle est femme d'un militaire de carrière, jeune et jolie, très à l'aise dans ces escarpements qui font un cadre farouche à sa gentillesse.
C'est-à-dire que nous sommes dirigés, oui, bien sûr, par M. Bauer, qui nous avait indiqué deux endroits à fouiller et les fossés à déblayer. Alors, il s'agissait pour nous de creuser et de trouver ce qu'il y avait sous la terre. Dans les fossés, on a eu la chance de retrouver les anciens créneaux du château, de l'enceinte du château.
Les créneaux qui ont été conservés malgré les Jacobins?
Justement, c'est peut-être ça qui les a conservés, puisqu'ils sont tombés. Et ensuite, on a mis de la terre dessus, ce qui a fait qu'on les a retrouvés presque intacts, enfin une bonne dizaine.
Madame, est-ce que vous avez trouvé en dehors des créneaux des choses intéressantes au point de vue objet ou bien vestiges d'autrefois?
Non, on trouve surtout des tessons de poterie, mais autrement, on n'a vraiment rien trouvé d'intéressant, non. On a découvert une poterne qui était sans doute une entrée secrète dans l'enceinte du village. Et au pied de l'escalier du château, une ancienne citerne. Et qu'on a entièrement déblayée.
Madame, vous êtes professeure de quoi?
Je suis professeure de dessin.
Est-ce que c'est votre métier qui vous a conduit à vous occuper de vestiges du passé ou bien c'est par goût personnel?
C'est-à-dire que par mon métier, oui, je m'intéresse à tout ce qui est esthétique, disons, et c'est aussi le hasard et l'envie aussi de retrouver un certain passé, enfin, une certaine nostalgie. Je crois qu'on a tous dans notre vie un besoin de château, enfin, qui est une espèce de repère du passé.
C'est la nostalgie du passé ou la nostalgie du marquis de Sade?
Du passé surtout, oui, parce que au point de vue archéologique, le marquis pour nous n'est pas d'une grande importance.
Ah, sur le plan philosophique, c'était un précurseur à des tas de points de vue. Vous ne pensez pas?
Oui, bien sûr. Bien sûr, oui, mais nous, on est surtout intéressés par les pierres. Il faut dire que la région ici est spécialement belle et un peu âpre et sauvage et je crois que une des choses que j'ai retenues particulièrement du chantier qu'on a fait cet été, c'est les levées de soleil le matin, la brume et certaines poésies, en dehors de notre travail qui était assez dur.
Parce que personnellement, sur le plan, comment dirais-je, matériel, vous travaillez également sur les chantiers ?
Oui,
vous remuez la terre ?
Oui, bien sûr, oui, avec la pioche, la poulie, les brouettes, oui.
Il y a beaucoup de femmes comme vous qui se prêtent à ce travail-là, qui est particulièrement dur, qui n'a rien de spécialement féminin, a priori.
Oui, il y a énormément de jeunes filles qui viennent ici tous les ans travailler très très dur la terre. Et justement, ça m'a fait penser à un passage que décrit le marquis dans Juliette. Il parle de femmes qui sont enfermées dans l'intérieur d'un château et qui tournent autour d'un puits pour puiser l'eau. Elles sont entièrement nues. Et en revoyant mes photos et voyant toutes ces filles qui travaillent en maillot de bain et qui sont couvertes de terre, j'ai pensé à ces femmes-là. Enfin, c'est assez extraordinaire de regarder cela.
C'est des fouilles, on creuse la terre, on remue des pierres.
Qu'est-ce que vous avez trouvé d'extraordinaire ?
On a trouvé tout ce qui existait sous le château, c'est-à-dire tout ce qui était plus visible, quoi.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire des parties du château qui avaient disparu, qui avaient été emblayées ou tout.
Et comment est-ce que vous arrivez à raccorder justement ce que vous trouvez avec l'histoire du marquis de Sade, d'après les archives de M. Bouer précisément ?
Ben, c'est pas tellement nous qui raccordons, c'est M. Bouer qui raccorde au long de toutes les soirées qu'il y passe dessus, je suppose. Et qui voit ça et qui nous l'explique après. Nous, on est la main et lui, il raccorde ce que la main fait par rapport à ce qu'il peut savoir et ce qu'il a retrouvé.
Bien sûr. Et vous, monsieur, vous faites quoi là-haut ?
Ben, je travaille à l'intérieur du château. Je n'ai pas fait des fouilles parce que ça fait depuis un an que je travaille à peu près. C'est à l'intérieur et monsieur Bouer, tous les dimanches, on travaillait.
Et vous pensez qu'il y a du travail pour longtemps ici au château du marquis de Sade ?
Oui, il y en a encore pour beaucoup d'années. Disons que j'aime ça et je viens volontiers.
Et qu'est-ce que vous avez trouvé d'intéressant, vous, personnellement, là-haut ?
L'histoire du marquis de Sade que j'ignorais auparavant.
Oui, justement, est-ce que parallèlement à votre travail matériel de déblaiement et de restauration, vous intéressez justement à la partie littéraire ou à la partie philosophique ou esthétique du marquis de Sade ?
Je ne pense pas tellement, justement. Je pense surtout à restaurer.
Parce qu'en fouillant des pierres, on a envie, précisément, de rencontrer une époque, de faire un retour en arrière, de faire des comparaisons.
Bien. Bien sûr, le château a un passé, on veut remettre en valeur, disons.
Remettre en valeur par rapport à quoi ?
Je sais pas, je fais ça me plaît, quoi.
Ces jeunes qui s'intéressent aux ruines de la Coste ont reçu l'impulsion et l'exemple de Monsieur et Madame Bouer. Monsieur et Madame Bouer, eux, ont acquis les ruines de la Coste et ils ont décidé de les relever. Résigné, souriant, Monsieur Bouer n'est pas sûr de voir définitivement restaurer le nid d'aigle du marquis de Sade, qu'il nous situe maintenant très exactement.
La Coste se trouve située sur le versant nord du Luberon, à peu près à égale distance entre les villes de Cavaillon et d'Apt.
Et Sade s'est installé à la Coste. Je crois que ce château existait déjà et qu'il appartenait à sa famille, non ?
Ce château existe depuis fort longtemps, puisque le document le plus ancien que nous possédons remonte à 1038. C'est donc un des premiers châteaux de pierre, juste avant la conquête de l'Angleterre par les Normands. Et on voit dans la fameuse tapisserie de Bayeux que la plupart des châteaux de l'époque étaient en bois, dont nous avions déjà un peu d'avance sur les Normands, puisque nous avions déjà à la Coste un château en pierre. Ce château est assez extraordinaire parce que il a un pont-levis qui, au lieu de se relever, s'abaisse, ce qui ne se trouve que dans les châteaux germaniques ou dans le nord de la France. Et ce château, donc, a traversé les siècles, a été longtemps une citadelle des Simianes pour entrer au début 18e dans la famille de Sade. Donc Sade était déjà le troisième du nom des Sades à posséder ce château. Ce château, il a dû certainement penser à cette origine germanique, puisque dans son fameux roman Les Sages de Sodome, il situe l'action en forêt noire. Le château s'appelle Château de Siling, mais la description qu'il en donne correspond point par point au château de Lacoste. Et même avec les deux inventaires que je possède 18e, on peut suivre l'action du roman en voyant comment les gens se déplacent à l'intérieur des bâtiments. C'est très curieux. On peut très bien pointer ça sur un plan et faire un itinéraire exact, n'est-ce pas, de ces allées et venues de tous les personnages à l'intérieur des bâtiments. Il décrit ce château comme un château perché sur un rocher inaccessible, avec un fossé énorme qui est un caprice de la nature. Et en effet, le fossé que vous verrez en vous promenant autour du château est tout à fait abrupt et détache celui-ci du plateau. Ça forme un peu comme un éperon barré, vous savez, c'est le type classique de toutes les forteresses depuis l'époque préhistorique jusqu'à nos jours. Ce château est, pour Sade, l'image du lieu clos où le Seigneur et maître tout-puissant peut agir à sa guise. Et je pense que c'est assez symbolique de la pensée et même de l'œuvre de Sade.
Je crois qu'on peut même aller plus loin, M. Bouer, en disant que le château de Lacoste, pour Sade, peut même symboliser la négation par rapport à Beaunieux, qui est la terre voisine et qui est la terre papale et catholique.
Oh oui, il y a un parallèle à faire entre Lacoste et Beaunieux. Pendant tout le Moyen-Âge, il y a eu des rivalités terribles, car Lacoste était, comme vous le savez, le dernier village frontière, Beaunieux, la première cité papale. Et nous avons dans les archives du village une histoire de bataille entre Gosses au XVIIe siècle, je crois. Ils s'étaient vraiment battus à coups de pierre. Et on avait dû envoyer un représentant de l'intendant pour calmer les esprits. C'est pour dire que cette rivalité a été très grande, presque jusqu'à nos jours. Et au XVIIIe siècle, Lacoste avait une position assez exceptionnelle, position très, très, très intéressante pour les habitants qui vivaient de contrebande. Et à cette époque-là, nous étions riches. Nous regrettons beaucoup que cette contrebande soit maintenant supprimée.
Contrebande de quoi, M. Bouet ?
Absolument tout. Vous imaginez, c'était une frontière, quoi. Contrebande de tout ce qu'on peut imaginer. Et ceci enrichissait les habitants qui vivaient beaucoup mieux que de nos jours.
La frontière, c'est-à-dire que Lacoste était en France et que Beaunieux était état du pape.
C'est ça. Lacoste est en France, Beaunieux était dans l'état du pape. Et maintenant, vous savez que l'agriculture ne peut pas fournir de telles ressources. Donc, nous regrettons sincèrement cette époque bénie où nous vivions richement de la contrebande que nous faisions dans les états du pape. Le plus extraordinaire, c'est que le marquis de Sade, étant à Lacoste, voulait, comme il dit cyniquement à son notaire, se refaire une réputation. Et alors, il fallait vivre d'une façon très austère chez lui, car il était seigneur au justicier, il avait un tribunal, et il était absolument interdit, par exemple, de jouer aux cartes pour de l'argent. Une nuit, la maréchaussée a cerné la ferme de la Maison Basse, qui était la résidence du fermier général du marquis de Sade. Ils ont tous été jugés par le tribunal seigneurial, donc c'est bien Sade qui a présidé, n'est-ce pas, aux punitions qui ont été infligées.
Alors ce qui est paradoxal aussi, c'est que ce marquis de Sade, qui était un épouvantail sur le plan judiciaire et qui était très sévère avec ses sujets, eh bien, était lui-même, avait maille à partir avec la justice, mais à Paris peut-être.
Et oui, c'est assez curieux, parce que Sade, étant à Paris, étant enfermé, en particulier au donjon de Vincennes, eh bien, faisait mettre en prison des gens à Lacoste, puisqu'il était seigneur au justicier. Il avait droit de basse, de moyenne justice, c'est-à-dire qu'en principe, il avait le droit de vie et de mort ses sujets, car la haute justice correspond aux assises, la moyenne justice à peu près à la correctionnelle, et la basse justice, c'est le tribunal de Sainte-Police. Il avait tous les pouvoirs judiciaires, théoriquement, n'est-ce pas ? Alors, ce qui fait que le Sade faisait donc emprisonner des gens en tant que seigneur au justicier, étant lui-même le prisonnier du roi. Il s'est réfugié à Lacoste chaque fois qu'il avait des ennuis, qu'il avait mal à partir avec la police, après l'affaire d'Arcueil, et puis après l'affaire de Marseille. L'affaire d'Arcueil, ça fait environ, je crois, se situe en 1768, il a dû venir à Lacoste en 71. C'est la première affaire qui a fait connaître Sade, enfin, du grand public. Il se promenait à Paris sur la place des Victoires. C'était le Saint-Jour de Pâques. Il a rencontré une veuve qui s'appelait la veuve Keller. Il prétend que c'est une prostituée, enfin ça n'a pas été prouvé. En tout cas, c'était une pauvre femme qui n'avait pas d'argent du tout, qui d'après elle ne faisait que demander du travail. D'après Sade, elle lui avait vraiment offert ses charmes. Enfin, on ne sait pas qui croire. En tout cas, Sade l'a amenée dans sa petite maison d'Arcueil, car tous les nobles qui habitaient Paris avaient, enfin tous, disons presque tous,
un pied-à-terre.
Oui, avaient un pied-à-terre discret à Arcueil, qui était leur petite maison. Et il y avait les petites maisons de ces messieurs à Arcueil. Il l'a emmené chez lui, et puis alors il l'a déshabillé, il l'a mis sur un lit, il l'a ficelé, les fesses en l'air, il a donné de bonnes fessées, et après, il lui a mis une espèce de pommade sur les petites coupures qui avaient été laissées par les lanières. C'est à peu près tout ce qui s'est passé.
C'est pas terrible.
Oui, mais alors elle s'est échappée avec un drap ficelé à la fenêtre, selon les meilleures traditions romanesques et romantiques. Elle s'est échappée chez le juge d'Arcueil, où elle a fait une déposition en règle devant ce juge. Et alors le scandale, c'est qu'on a pensé que c'était cette flagellation de la veuve Keller le jour de Pâques était un blasphème. C'était tourné en dérision la flagellation du Christ, vous voyez. On a vu là une intention blasphématoire, et c'est là le scandale, beaucoup plus que la fessée.
Le premier scandale. Après, l'autre scandale, c'est quoi ?
Deuxième scandale, c'est l'affaire de Marseille. Ça détente à la coste, alors après l'affaire d'Arcueil, menant une vie assez retirée en apparence, mais assez scandaleuse, avec tous les domestiques, car il y avait à la coste, comme sujet de débauche, Goton la Bonne, qui était d'origine suisse. Il y avait la jeunesse, le valet, il y avait Langlois, un petit secrétaire de 14 ans, absolument illettré. C'est assez curieux pour un secrétaire. Cette preuve, on peut la voir à la bibliothèque de l'Arsenal, où on voit ces lettres qui sont à peu près illisibles. Il faut les lire à haute voix pour les comprendre. Et ensuite, voyons, il y avait deux petites filles qui ont joué un grand rôle, non seulement dans la vie de Sade, mais dans la littérature, puisque dans le roman des 120 jours de Sodome, on fait allusion encore à ces petites filles de L et de V. On ne cite que les initiales, c'est-à-dire Lyon et Vienne. Ces petites filles de 14 ans aussi, je crois, 12 à 14 ans, avaient été embauchées par la marquise de Sade elle-même pour ravauder le linge à la coste. En réalité, elles servaient de sujet de débauche à Sade aussi. Ce qui fait que cette débauche discrète avait lieu dans une aile du château que nous avons appelée depuis l'aile des menus plaisirs. En réalité, il n'y a pas eu de torture à la coste. Sade, je crois, a plus rêvé le sadisme qu'il ne l'a pratiqué. Car ce qu'il a pratiqué vraiment, l'affaire d'Arcueil, une flagellation, l'affaire de Marseille, crime de sodomie peut-être, masculine et féminine, distribution de bonbons catharinés, je crois que c'est ce qui se fait couramment dans tous les mauvais lieux de Paris à longueur d'année.
Sur le plan philosophique, Sade pensait que le mal était aussi nécessaire que le bien à l'équilibre cosmique. Il avait donc choisi délibérément le mal et aussi de combattre la religion catholique.
Il a combattu avec acharnement, hein, un acharnement extraordinaire. On voit par exemple dans tous ses romans l'hostie souillée, le pape insulté, bafoué, les cardinaux ridiculisés. On sent vraiment que c'était pour lui un devoir essentiel, abattre la religion, abattre la morale, abattre tout ce qui gêne cette lutte entre le bien et le mal, qui doit se faire spontanément, sans intervention humaine ni de la société.
À la coste, Sade a eu le temps, en 4 ans, de compter fleurettes, bel euphémisme, à moult petites filles des environs, dont il tenait comptabilité avec Freden à l'encre rouge sur des petites feuilles qu'un jour le Mistral emporta.
Et il y a une histoire de petites feuilles qui s'était envolée par une des fenêtres du château et qui a préoccupé Madame de Montreuil pendant des années. Elle écrivait encore longtemps après à Goffredi, notaire du marquis Apt, mais que sont donc devenues ces petites feuilles? Et on n'a jamais trop su ce qu'elles contenaient. Pour ma part, je pense que c'était une comptabilité sexuelle que tenait Sade, je dirais plutôt sexuelle, c'était des prouesses sexuelles qu'il devait noter, un peu comme il a fait à Marseille, lorsqu'il se faisait donner des coups de balai de bruyère sur les fesses pour une prostituée, avec un canif, il inscrivait sur la cheminée tous les coups qu'il recevait. Et je pense que c'est une comptabilité de ce genre-là, peut-être encore plus scandaleuse, qu'il devait tenir. Il fallait que ce soit quelque chose de très grave pour que Madame de Montreuil, qui était la femme d'un président de Mortier, qui connaissait bien les lois et qui savait les conséquences des actes, ait pris tant de peine pour les rechercher et pour les anéantir. Je crois d'ailleurs qu'elle ne les a jamais retrouvées. Moi-même, je ne les ai jamais retrouvées non plus.
De toutes ces relations, Sade eut quelques enfants, dont certains descendants revendiquent encore aujourd'hui la légitimité, même naturelle.
Il a eu quand même 2 fils et 1 fille, n'est-ce pas ? Et sans compter les enfants naturels, dont une petite fille qui est morte de faim dans une ferme de la coste.
Je crois d'ailleurs qu'il y a encore des descendants du marquis de Sade qui portent son nom et qui sont venus à la coste vous voir, Monsieur Bouer.
Des descendants qui sont très sympathiques et qui s'intéressent énormément à tous les souvenirs de la famille. Ils sont venus à Lacoste plusieurs fois, je les connais bien. Ils ont eu l'obligation de prêter des documents très précieux et même une lettre de mon ancêtre Paulet, justement, réclamant 15 ans après la mort du marquis le remboursement des frais occasionnés pour la restauration du château. Je vous en ai parlé il y a un instant. Cette lettre, c'est eux qui me l'ont prêtée. Et même leur fille, Marie-Aiguille, est venue travailler cet été au château. Et elle était enthousiasmée de se retrouver, n'est-ce pas, dans ce lieu que sa famille a habité pendant tant de siècles. Au point de vue esthétique, il y a une chose qui m'a toujours frappé, et qui a frappé d'ailleurs, je pense, tous les lecteurs de Sade, c'est ce décor gothique, enfin, j'entends par gothique comme le gothique comme on l'entendait au XVIIIe siècle, c'est-à-dire tout ce qui est romanesque, moyenâgeux, salle de torture, chemin détourné, poterne, pont-levis, un peu le château fantastique à la Victor Hugo, hein. Voilà. Alors, il était dans tous ses romans, que ce soit Les Cendres de Sodome, que ce soit Justine, même Aline et Valcourt, on trouve une quantité de ces lieux extraordinaires, de ces châteaux moyenâgeux. Eh bien, Sade a eu la chance d'avoir exactement le château qu'il rêvait, le château de Lacoste, puisqu'il était resté absolument identique à ce qu'il était presque même au XIe siècle. Il avait subi que fort peu de modifications intérieures. Eh bien, ce château, dès qu'il l'a reçu, il l'a reçu au moment de son mariage. Il s'est marié en 1763. Et le jour de son mariage, son père lui a fait cadeau de tous les biens de la famille. Attention, c'est un cadeau empoisonné. Car papa donnait à son fils la nue propriété des biens et gardait tous les revenus. Ce qui fait que Sade avait trois châteaux sans aucun revenu pour les entretenir et que c'était lui qui devait payer toutes les réparations, son père encaissant tous les revenus. Vous voyez, c'est donc un cadeau empoisonné que Sade a malgré tout accepté, car le contrat ayant été signé par le roi et la reine, il fallait quand même que beaucoup de biens y figurent. Donc ces biens-là ont figuré, mais plutôt, si vous voulez, à titre indicatif qu'à titre réel. Donc Sade reçoit Lacoste en 1763. Il a 23 ans. Il vient de se marier. Il vient d'épouser la Gicordier de Montreuil. Et il arrive à Lacoste avec la beau-voisine, non pas avec sa femme, et commence à dépenser 1400 livres. Les travaux ont duré 4 ans, de 1765 à 1769. Il a fait des travaux très importants. Il a abattu un rempart pour remplacer l'entrée médiévale par un pont très large et assez lourd de lignes pour pouvoir entrer dans le château en carrosse. Car au XVIIIe siècle, il est impensable qu'un seigneur entre à pied chez lui. Et l'entrée féodale ne permettrait pas de passer en voiture. Donc il a abattu carrément le rempart pour faire cette entrée. Il a crevé aussi la deuxième enceinte pour y mettre une grille aux armes de sa maison, ce qui était assez prétentieux et qui n'apportait rien au château d'important ni de valable. Et il a aussi installé une foule de petits appartements dans l'aile gauche où il avait installé sa femme. Donc c'est une façon de procéder assez discrète. Monsieur se divertissant dans l'aile du plaisir qui était au sud, madame vivant saintement dans l'aile de madame qui était à gauche de la cour. Voyez-vous, la vertu séparée du vice par une cour intérieure de 8 mètres de large. Donc l'honneur était sauf.
Vous avez prononcé tout à l'heure le nom de Justine, je voulais vous faire faire une parenthèse. Je crois que sa bonne, une des bonnes du château de Lacoste s'appelait Justine.
Oui, une des bonnes à Lacoste s'appelait Justine, en réalité s'appelait Catherine Treillet. Et son père était marchand de couverte, en provençal ça veut dire couverture, marchand de couverte à Montpellier. Et Sade l'avait engagé là-bas, à Montpellier. Et ce qu'il y a de curieux, c'est qu'un père récollet de Montpellier s'était porté garant des bonnes mœurs de Sade en disant qu'il n'y avait pas homme plus vertueux et meilleur maître que lui. Donc le père l'avait permis de venir à Lacoste, et lorsqu'il est venu la voir, il s'est rendu compte que le bon père récollet n'avait pas dit toute la vérité. Il était tellement épouvanté qu'il a demandé à Sade de la lui rendre tout de suite. Sade n'a pas voulu, alors il est allé dans le bourg, clabaudé au café, revenu avec des pistolets chargés, et a tiré 2 coups de pistolet sur Sade, mais heureusement à travers la porte d'entrée, ce qui fait que le coup a dévié, que Sade n'a pas été tué. Mais Sade a essayé de le faire arrêter, puisqu'il était seigneur au justicier. Impossible s'il était réfugié à Lumière, qui est à 3 km de là, hors de la puissance temporelle du seigneur de Lacoste. Il était révolutionnaire, je crois, pour d'autres raisons que le peuple, mais il l'était quand même profondément. Et il a, par ses écrits, montré, n'est-ce pas, qu'il a joué un rôle actif pendant la Révolution. Mais à Lacoste, personne n'y a cru. Car à Lacoste, il était le seigneur. Et on ne comprenait pas du tout qu'un seigneur soit révolutionnaire. Ce qui fait qu'on lui a fait quelques petites misères, hein, sans plus. En particulier, la société des Jacobins, qui siégeait dans l'église devenue le siège de la société, envoie une pétition à Sade en lui demandant de démolir les créneaux qui surmontaient sa maison.
Pourquoi ? Parce que les créneaux étaient symbole de féodalité.
Oui, exactement. Les créneaux étaient symbole de féodalité. On enlevait les créneaux, c'était plus un château, c'était une maison, et personne n'avait plus rien à redire. Alors Sade a reçu cette lettre à Paris. Il leur a répondu une lettre admirable qui a été conservée et publiée par Paul Bourdin dans la correspondance de Sade. Il leur dit ceci: « Messieurs, mes créneaux vous déplaisent, qu'à cela ne tienne, je suis prêt à les immoler sur l'autel de la patrie, le marteau d'une main, la constitution de l'autre, nous ferons une fête civique cette démolition, mais attendant, messieurs, respectez les propriétés comme l'exige la Constitution, et souvenez-vous que Brutus n'avait dans sa suite ni maçon ni incendiaire quand il chassa les Tarquins de Rome. Salut, fraternité. » Impressionné par le ton républicain de la lettre, les Lacostois sont tenus là et les créneaux sont tombés de même de vétusté au fond des douves.
Dans le village qui moutonne autour de Lacoste, dans le Lacoste du XXe siècle, vivent pacifiquement le maire communiste, M. Madon, et toute une population modeste dont les indigènes coexistent avec de grands peintres et des artistes venus d'Amérique, tels M. Wise, éditeur d'art.
De ce pays, de cette vallée, a été découverte, si vous voulez, par André Lhote avant tout, qui s'installait à Gordes il y a très longtemps.
Je crois que c'est André Lhote qui a fait le renommée de Gordes.
Au début, certainement. Et depuis ce temps, quand vous comptez les nombres des grands artistes qui étaient dans le pays, sans parler des jeunes, c'est assez énorme. C'est la lumière qui nous attire et ils vont attirer toujours. Il y a des événements importants. Il y a une artiste américaine qui possède des maisons dans le village et depuis 2 ans, il y a un collège américain qui amène 50 élèves pour la sculpture, pour la peinture, pour le dessin. C'était la 2e année cette année. Et ça anime beaucoup. Il y a combien des artistes dans le village qui vivent tout le temps? Il y a 2 ou 3. En été, il y a beaucoup. Le pays change énormément et changera beaucoup dans l'avenir, il n'y a pas de doute.
C'est dommage.
C'est dommage. Mais c'est encore un dernier refuge et je pense que ça va être là pendant pas mal de temps.
Monsieur Madon, à l'idéal socialiste, est devenu conservateur, mais au sens propre du terme. Pour approuver les travaux entrepris pour sortir de l'ombre ce symbole de la féodalité, Lacoste. Monsieur le maire, depuis combien de temps exercez-vous votre mandat ?
Depuis mars 65.
C'est difficile de faire un équilibre entre le Lacoste du passé, le marquis de Sade, et puis les gens qui gouvernent maintenant aujourd'hui.
Ah ben oui, évidemment, entre les histoires anciennes et les problèmes d'aujourd'hui, bon, il y a une différence, ils peuvent être liés si vous voulez, mais enfin c'est très différent. Je pense qu'on ne peut plus de toute façon administrer Lacoste de la même façon qu'on l'administrait à l'époque du marquis de Sade, bien sûr.
Heureusement d'ailleurs.
Oh, hein, pour savoir.
Ah. Est-ce que vous avez des problèmes particuliers justement en fonction des gens qui sont attirés par cette chose prestigieuse qu'est le château du marquis de Sade?
Disons qu'entre gens qui viennent en résidence secondaire pendant l'été ou pendant les vacances et population locale ou les indigènes, comme l'on dit, il n'y a pas de grands problèmes. Il y a de bons accords et de bonnes ententes.
Mais il doit y avoir quand même des problèmes d'esthétique qui doivent jouer, parce qu'on ne peut pas construire n'importe quoi et n'importe comment ici.
Bien sûr, et heureusement, parce que sans quoi je crois qu'il y a déjà des restrictions, il y en aura dans l'avenir un peu plus, mais je pense que ça s'impose et c'est nécessaire, sans quoi ce serait une invasion et une chose aussi assez aberrante et très laide. Il y aurait sûrement des constructions faites n'importe comment, de n'importe quelle façon, un peu partout, et ce serait dommage. Il me semble que, surtout pour les jeunes touristes qui viennent en promenade à la côte, c'est pas un inconvénient et non plus un problème de circuler sur une petite route à une vitesse réduite. Beaucoup de gens viennent en promenade à la côte pour y visiter les ruines du château, pour parler du meunier malachier dont nous avons parlé, mais ils viennent aussi pour s'y reposer, s'y oxygéner et y vivre un peu dans le calme et la tranquillité. Je pense que pour beaucoup de gens, c'est maintenant indispensable.
Allez à la côte, vous y verrez ce splendide château qui émerge peu à peu du passé. Le centre culturel y a organisé des galas, poétiques, chorégraphiques, on y a même joué l'Arlésienne, Antigone, dans les ruines illuminées. Les Provençaux d'aujourd'hui ignorent le sadisme grinçant. Ils ont gardé, au contraire, le sens de l'accueil, très latin. Et ces vieilles pierres ne recomposeront jamais le ciment du péché. Comme dit Giono, la soudure du mal tombe en poussière, seule demeure la blancheur de la pierre immaculée.
Thank you.
Cette émission a été diffusée pour la première fois le 4 février 1973.